de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère du Commerce augmente des exportations vers la Pologne. Le président Joko Widodo décidera du plan d'investissement de SoftBank dans la nouvelle capitale en février 2020. L'Assemblée consultative du peuple indonésien, ou MPR, vise la création du Conseil de la Shura mondiale en 2020. L'Irak refuse de permettre aux troupes américaines de reprendre les opérations militaires. Le musée du Louvre a été fermé de force par des manifestants. La France envoie des porte-avions au Moyen-Orient au milieu des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et le président de l'Ukraine rejette la démission de son premier ministre. Voici le journal complet. Le ministère indonésien du commerce continuera de coopérer avec tous les représentants indonésiens dans le pays d'Europe centrale et orientale, y compris avec la Pologne, pour accroître le volume des échanges. Le vice-ministre du commerce, Jerry Sambuaga, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie en Pologne, Siti Nugraha Mauludia, à Jakarta vendredi, a déclaré que l'Indonésie souhaitait accroître ses exportations vers des marchés non traditionnels. Jerry Sambuaga a déclaré vendredi à Jakarta que la Pologne, l'un des pays membres de l'Union européenne, était le marché non traditionnel qui a le potentiel d'être développé pour les exportations indonésiennes. La Pologne a une population d'environ 35 millions d'habitants avec une croissance économique de 4 à 5%. L'augmentation du nombre de personnes de la classe moyenne renforce le potentiel de la Pologne en tant que marché non traditionnel pour l'Indonésie. Certains produits indonésiens qui sont demandés en Pologne comprennent les nouilles instantanées, les bonbons au café, le batik, les meubles, le café et la palme. Le ministre de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le programme d'investissement de SoftBank dans la nouvelle capitale sera déterminé par le président Joko Widodo en février 2020. Selon lui, le géant de télécommunications et de médias du Japon deviendra l'un des investisseurs dans le développement de la nouvelle capitale. À Coffee Morning, à Jakarta vendredi, Luhut a expliqué qu'il était en train de préparer un plan d'investissement qui serait convenu, y compris le retour sur investissement. Les projets dans la nouvelle capitale seront basés sur des clusters, par exemple les groupes éducatifs et les hôpitaux. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, ou MPR, Bambang Susatyo, a déclaré que MPR visait la création du Conseil de la Shura mondiale en 2020. La formation de conseil est appréciée par le président du Conseil de la Shura arabe, Abdullah bin Muhammad al-Asheikh, et le président du Parlement marocain, Hakim Ben Shammah. Bambang, dans une déclaration écrite reçue par Kompas.com vendredi, a déclaré que le Parlement de l'Arabie Saoudite et du Maroc aiderait le MPRRI à se socialiser et à inviter le Conseil de la Shura de divers pays à s'impliquer. Le Conseil de la Shura mondial a été créé pour renforcer la diplomatie indonésienne avec divers pays amis. Le gouvernement irakien a refusé d'autoriser les États-Unis à reprendre les opérations militaires dans leur pays. La déclaration a été faite par le gouvernement irakien pour réfuter les informations selon lesquelles les États-Unis reprendraient les opérations militaires à Bagdad. Des milliards de soldats américains ont été déployés en Irak pour soutenir les forces locales empêchant l'État islamique de revenir. Ils sont devenus membres de la coalition internationale que l'Irak a invité en 2014 à combattre ISIS. Mais l'opération militaire a été arrêtée le 5 janvier ou deux jours après qu'une attaque de drones américains a tué l'officier militaire de haut rang iranien, le général de division Qasem Soleimani, autour de l'aéroport de Bagdad. L'attaque a été lancée le 3 janvier, a également tué l'un des chefs militaires irakiens, Abdul Mahdi al-Muhandis. Le porte-parole du premier ministre irakien pour les affaires militaires, Abdul Karim Khalaf, a déclaré à l'AFP vendredi que les forces de la coalition n'avaient pas l'autorisation de Bagdad pour effectuer des missions conjointes. Khalaf a déclaré que le gouvernement irakien avait ordonné à la coalition de mettre fin aux opérations conjointes après que les États-Unis aient lancé deux frappes aériennes en Irak. Des dizaines de manifestants ont bloqué l'entrée du musée du Louvre et forcé la fermeture des lieux vendredi dernier. Cette manifestation avait pour but de dénoncer le projet du gouvernement français de refondre le système de retraite. Les manifestants, y compris certains employés du musée du Louvre, ont organisé la manifestation contre la proposition du président français Emmanuel Macron. Certains syndicats de gauche ont appelé à une action publique pour s'opposer à la baisse des fonds de pension. L'exposition du musée de Leonardo da Vinci, qui marque le 500e anniversaire de la mort d'un peintre italien, doit être clôturée. Cette décision est la première depuis qu'une grève des trains et des protestations contre l'amélioration des retraites ont commencé le 5 décembre. L'œuvre et l'exposition de Léonard est complètement fermée. Les semaines de grève et de protestations ont gêné les transports en commun et perturbé les écoles, les hôpitaux, les palais de justice et même les opéras et la tour Eiffel. De grandes pertes se produisent partout, y compris le transport. Le bureau du premier ministre a déclaré en début de semaine que les autorités ferroviaires SNCF et RATP qui exploitent les transports en commun avaient perdu plus d'un milliard d'euros depuis le début de la grève. Le train a le plus souffert de la perte de 850 millions d'euros. La France va envoyer le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe Aéronaval au Levant, au Moyen-Orient, au milieu de tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le président Emmanuel Macron a déclaré que le porte-avions soutiendrait l'opération militaire française au Proche-Orient de janvier à avril 2020. Le groupe aéronaval viendra soutenir l'opération Chamal de janvier à avril 2020 avant de se déployer en Atlantique et en mer du Nord. L'opération Chamal est une opération militaire française de lutte contre le groupe État islamique d'Irak et de Syrie ou ISIS en Syrie et en Irak. L'opération a été lancée depuis 2014. Le soutien parie pour la coalition internationale anti-ISIS dirigée par les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment rejeté la demande de démission de son premier ministre. Il lui a demandé de continuer à travailler. Le début du problème est survenu après que le premier ministre ukrainien, Oleksiy Oncharuk, a été pris dans l'enregistrement critiquant vivement Zelensky. Selon lui, le président sans expérience politique ne savait rien de l'économie. Dans une vidéo publiée par le bureau du président, Zelensky a qualifié la situation de désagréable, mais a décidé de donner au premier ministre et à son cabinet une chance de continuer à travailler. Volodymyr Fezensko, chef du groupe de réflexion Penta, tel que rapporté par l'AP samedi, a déclaré que Zelensky ne voulait pas licencier Onchharuk. La même chose a été dite par Volodymyr Sidenko, analyste du groupe de réflexion de Chantre Razumkov. Selon lui, le président ukrainien s'inquiète, le licenciement déclenchera une crise politique dans son pays. Voilà le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « L'Indonésie a promis aux investisseurs d'éliminer les obstacles à l'investissement ». La réalisation des investissements en Indonésie n'est toujours pas maximisée. Les obstacles, entre autres, sont l'acquisition de terres et l'octroi de licences longues et compliquées. La délivrance de licences au niveau de ministères, des provinces et des districts ou des villes est toujours un grand problème en Indonésie. Il y a environ 42 000 réglementations qui se chevauchent. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo lors de l'inauguration du Conseil central de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou HIPMI, pour la période de 2020 à 2022 à Jakarta, mercredi. Le président a promis qu'il résoudrait le problème. Le président Joko Widodo a déclaré que cette semaine, le gouvernement soumettrait une loi omnibus à la Chambre des représentants ou DPR. Une loi complétera 74 lois précédentes. Selon le président, la cause de l'engagement d'investissement défavorable est généralement due aux petites choses, telles que des questions d'acquisition de terrains qui n'ont pas été réglées afin que les investisseurs ne puissent pas démarrer leur entreprise. Le président a également apprécié les mesures prises par le chef du Conseil de coordination des investissements, ou en Indonésie, Badan Koordinasi Penanaman Modal, ou abrégé en BKPM, qui ont directement résolu les obstacles au terrain. À cette occasion, le chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, Bahlil Lahadalia, a mentionné trois fonctions du BKPM, à savoir promouvoir, convaincre les investisseurs d'entrer en Indonésie et superviser les investissements jusqu'au niveau du programme et aux étapes de la production des investissements. On doit le faire parce que le pays obtiendra de multiples avantages lorsque l'investissement est productif. Ces avantages comprennent la création d'emplois, les recettes fiscales, la substitution des importations et l'augmentation des exportations. Basé sur les données de BKPM, l'objectif d'investissement de 2019 était 792 billions de roupias, qui se compose d'investissements étrangers et d'investissements nationaux. Tandis que la réalisation jusqu'en septembre 2019 a atteint 601 billions de roupias. Devant ceux qui étaient présents, dont la plupart étaient des jeunes entrepreneurs, le président Joko Widodo a promis que le gouvernement s'efforcerait toujours de lever les obstacles à l'investissement. Selon lui, on prendra cette mesure pour qu'elle coïncide avec la révolution des consommateurs en 2020, afin que l'Indonésie dispose d'un aimant d'investissement. Selon le président, la révolution des consommateurs rendra plus attrayant l'Indonésie pour les investisseurs mondiaux. Jokowi espère que ceux qui bénéficient de la révolution de la consommation ne sont pas des entrepreneurs nationaux ni des partis d'autres pays. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 janvier. On commence par le 19 janvier 1960. La signature du pacte conjoint de sécurité américano-japonais. On a d'abord signé le pacte de sécurité conjoint des États-Unis et du Japon en 1951 au Presidio de San Francisco après la signature de l'accord de San Francisco. On a ensuite amendé l'accord de sécurité en janvier 1960 entre les États-Unis et le Japon à Washington. L'accord stipule que toute attaque contre le Japon ou les États-Unis au sein de l'administration japonaise sera dangereuse pour la paix et la sécurité de leurs pays respectifs. Le 19 janvier 1966, Indira Gandhi devenait Premier ministre de l'Inde. Le 19 janvier 1966, après la mort du Premier ministre indien Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, qui était présidente du Parti du Congrès, a été Premier ministre de l'Inde. Indira Gandhi est devenue Premier ministre de l'Inde pour la période du 19 janvier 1966 au 24 mars 1977 et a continué le 14 janvier 1980 jusqu'à sa mort. Le 19 janvier 1969, un étudiant tchécoslovaque, Jean Palach, s'est immolé par le feu pour protester contre l'invasion de l'armée soviétique et du pacte de Varsovie à son pays. L'Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie en août 1968 pour détruire le mouvement de réforme démocratique connu sous le nom de Printemps de Prague. Un groupe d'étudiants tchèques, y compris Palach, a conclu un pacte de suicide dans l'intention de se sacrifier pour protester contre l'invasion. Palach a été la première personne à se brûler à la Palach de Fankesla. En raison de cette auto-immolation, Jean Palach est célèbre. On a apporté son nom pour le square au centre de Prague, pour la place et pour la route dans plusieurs villes du monde. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Hilangkan rintangan dan kini.
C'était la chanson intitulée « Buat Kamu » qui signifie « Pour toi » chantée par Kamala Ayu. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée « Construire un complexe sportif centralisé pour les Jeux Olympiques de 2032 ». Le Comité olympique indonésien, ou COI, va construire une installation sportive centralisée pour les athlètes d'élite ainsi que la préparation des Jeux olympiques de 2032. Selon le président du Comité olympique indonésien, ou COI, Raja Sabta Oktohari, la construction de l'installation afin que l'Indonésie accueille avec succès les Jeux olympiques de 2032 si elle remporte la nomination en tant qu'hôte de la plus grande fête sportive. Raja Sabta Oktohari se reflète également dans les pays exceptionnels tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, les Pays-Bas et l'Australie. Il se concentre sur l'entraînement des athlètes d'élite en tant que gagnants des Jeux Olympiques. Il a dit à Jakarta récemment que le plan de construction de cette installation n'était pas pour tous les sports, mais pour les athlètes d'élite qui étaient préparés pour les Jeux Olympiques. Donc, spécifiquement, le centre de formation pour eux. Il y a donc une distinction entre les athlètes d'élite, intermédiaires, pratama ou jeunes. Le Comité olympique indonésien a ciblé un certain nombre de sites pour construire le centre de formation centralisé. L'emplacement ne sera pas loin de Jakarta. Pour cette raison, selon Raja Sabta, cité par Detik Sport, COI coordonnera immédiatement avec le gouvernement pour la construction de ce centre de formation de la classe mondiale. Alors que le statut de propriété et de financement sera appliqué dans quelques schémas, que ce soit par le secteur privé, le gouvernement ou en collaboration avec le secteur privé. En outre, COI a également coordonné avec le Comité international olympique pour accélérer le processus de soumission en tant qu'hôte des Jeux olympiques de 2032, y compris la préparation d'une étude de faisabilité qui est une condition de la soumission. Selon Raja Sabta Oktohari, cette étude de faisabilité est très importante en tant que la forme de sérieux de l'Indonésie comme l'hôte des Jeux olympiques de 2032. À l'avenir, COI exposera les installations dont elle dispose déjà, y compris les plans de construction d'une installation sportive centralisée. C'est tout mon Indonésie. Sahi.
Pertanda hanya pikiranku saja, harapan itu semu sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, oh, oh. kenyataannya. Ini kenyataannya. Tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Kunto Aji, dont le titre est « Expectasi », qui signifie « l'espérance ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rendre à Lampung pour profiter de la beauté de l'île de Tegal Mas à Lampung. L'île de Tegal Mas Lampung, située sur l'île de Tegal, le village de Gebang, le district de Padang Cermin, la région de Pesawaran Lampung, est l'une des nouvelles attractions touristiques de la région de Pesawaran Lampung. Cette île présente une atmosphère de mer calme, car elle est située sur une île isolée et entourée de collines. L'eau de mer turquoise claire avec des beaux récifs coralliens est la voie principale. La mer n'est pas chaotique car sa position est dans la baie de Lampung et protégée par un groupe d'îles vallonnées. Sur l'île de Tegal Mas, les touristes peuvent plonger pour profiter de divers types de poissons colorés, de la flore et de la faune de la mer. Si vous avez de la chance, les plongeurs peuvent rencontrer une grosse tortue verte. Cette beauté sous-marine peut être appréciée à une profondeur seulement de 1 mètre. Il n'est pas difficile pour y aller. De Bandar Lampung, vous pouvez prendre la voiture avec une distance de 24 km jusqu'à la plage de Sariruding, le village de Gebang, le district de Cermin, la région de Pesawaran. De la plage de Sariruding, le voyage est continué en utilisant un bateau jukung motorisé jusqu'à l'île de Tegal Mas. Le tarif de bateau est 250 000 rupiah pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Le temps nécessaire pour se rendre à l'île de Tegal Mas est d'environ 30 minutes selon le vent. Il y a des endroits où les vagues sont plutôt ressenties. Sur l'île de Tegalmas, il y a déjà des épiceries, des stands de nourriture et des toilettes, et bien sûr des hébergements à différents prix. Ici, vous pourrez vous détendre dans un kiosque, jouer au sable sur la plage, des photographies, et vous pouvez également louer un canoë auprès de 25 000 roupias par heure. Après avoir fait diverses activités et vous avez faim, essayez de savourer la cuisine spéciale de Lampung, comme le gulai tabo qui est fabriqué à partir de genoa de coco. Chers auditeurs, c'était la chanson de Lala Suagues, dont le titre est Tanpamu, qui signifie sans toi. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en colère. Bonne écoute! Dans cette édition, je vous présente des informations sur l'application Tumbes.in. En raison de la routine de travail serrée, les gens ont souvent du mal à faire des achats au marché traditionnel. Voyant cette condition, quatre jeunes de la ville de Semarang ont créé une application pour permettre aux habitants de Semarang de répondre plus facilement aux besoins du ménage. Cette application appelée Tumbes.in facilite les transactions entre les commerçants traditionnels du marché et les achateurs. Les achateurs n'ont pas besoin d'aller directement au marché traditionnel. On peut commander les articles qu'on souhaite acheter par l'application Tumbes.in. Tumbes est un terme javanais qui signifie acheter. Chers auditeurs, en plus de permettre à la communauté de répondre plus facilement aux besoins de leur ménage, Bayu Mahendra Saubik, créateur de Tumbes.in, a expliqué « Cette application permet également aux commerçants traditionnels de commercialiser leurs produits plus facilement. On propose une variété de produits dans cette application, tels que des agrafes, des aliments de base, des légumes ou d'autres besoins quotidiens. Le prix dans l'application est même avec celui du marché. » Pour utiliser cette application, c'est assez simple. Il suffit de télécharger l'application dans Play Store et suivez ensuite les instructions, puis le coursier livrera immédiatement les besoins à votre domicile. Les marchandises arriveront rapidement à votre maison. Nous pouvons faire des achats par cette application de 3h du midi à 3h du soir, l'heure de l'Indonésie occidentale. Si vous réservez vos besoins à l'extérieur de l'horaire, on enverra vos achats le lendemain. Jusqu'à présent, il y a 4 marchés de la ville de Semarang qui sont connectés à l'application de Tumbes.in. Ils sont le marché de Karangayu, le marché de Peterongan, le marché de Pedurungan et le marché de Bulu. Selon Bayu Mahendra, cette application sera disponible dans d'autres régions de Java Central comme Yogyakarta, quand même dans d'autres régions d'Indonésie, afin de réduire l'écart de prix de chaque région du pays. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Sepenuhnya kau yang punya tanpa ku berpaling. Telah ku pahami diriku sejujurnya kan percaya takkan ku berdalih. Dengan dirimu akan ku coba tertawa dalam derita. Menangisi bahagia bersama. Tak ku sadari dirimu letih di tengah jalannya. Lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya. Ku memohon kini. Pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Jangan kau hati dulu,
sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya. Ku memohon kini,
oh, mungkin pintaku kian mengibah. Dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Setelah dernière chanson intitulée Jangan Kau Henti, qui signifie N'arrête pas, chantée par Lingua. Nous continuons notre programme avec les courrières et musique. Bonne écoute. Bonsoir, chers amis, où que vous soyez. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition Courrières et musique. Toute l'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Armada, un groupe indonésien formé en 2007. Ses membres sont Rizal comme chanteur, Rada Emai comme guitariste, Endra comme bassiste et Andit comme batteur. En 2019, il y avait une chanson d'Armada intitulée « Harusnya Aku » qui a été beaucoup chantée par d'autres musiciens sur la chaîne YouTube. En fait, on a sorti cette chanson depuis 2017. Harusnya Aku, ou en français ça devrait moi, parle de quelqu'un qui ne veut pas voir la personne qu'il aime heureuse avec les autres. Avant d'écouter cette chanson, je vais dire bonjour à l'auditeur de France, Paul Jamais, Bat B, à part 213 Saint-Roux Poupard, 9529 Lille Adam France, et Jean-Marie Monplot, de 409 Faubourg Montmélien, 7300 Chambéry France, et Grandin René, 25 terres de Chemin de Rose, 97418 Plaine de Cafro, île de la Réunion, océan Indien, et Abdelkader Khalil, du BP 69 Al-Wahad Ouarkla, 3000 RP Algeria, Nahmouchi Noiri, du BP 1 5 4 Bicetif, 19000 Algérie, et meilleures salutations à Maurice Mercier en France, précisément à 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône, et Omar Lassas de BP 530 Bureau de Poste Émir à Eka, 29008 Mascara, Algérie. Comment ça va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Voilà, c'est la fin de ce courrier. Merci à toutes qui nous ont écrit et envoyé des bulletins de réception. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et chers amis, voici Harusnya Aku, ou en français ça devrait moi, chanté par Armada.
bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
mana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda
of Indonesia.
Tak perlu berbohong.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Au revoir.